Points cardinaux, épisode 1. Et si l'on arrêtait de ne mesurer la réussite d'une start-up qu'en fonction de sa valorisation ou du montant de sa dernière levée de fonds? Alors que la crise sanitaire a mis à mal la résilience des start-up, BCG et La Boussole proposent, au travers d'une étude approfondie, une nouvelle vision des critères permettant de mesurer le succès d'une start-up. Ils invitent à prendre en considération 4 points cardinaux: l'impact économique, l'impact sociétal, l'innovation et la gouvernance responsable. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le sujet de l'impact économique avec Cyril Saint-Olive, en charge de la relation avec les fonds d'investissement pour l'Europe du Sud chez Google Cloud, Claire-Estelle Gourina, directrice de la communication chez Selextra, et Yacine Stocky, chef de projet au BCG. Bonjour Yacine, pourquoi intégrer l'impact économique dans la mesure du succès d'une start-up? À travers quels critères proposez-vous de la mesurer?
Alors, l'impact économique, c'est un critère qui est évidemment essentiel pour la startup si elle veut avoir un impact à long terme, pour sa pérennité. C'est vrai que dans le rapport, on dit qu'il faut élargir les critères de succès pour aller au-delà du financier, mais malgré tout, ça reste un critère qui est critique pour la pérennité des startups. Elles ont besoin de se financer pour être présentes à long terme, et elles ont besoin d'être rentables tôt ou tard. Les startups ont quand même une spécificité en plus par rapport à des entreprises classiques, c'est qu'elles ont quelque chose dans leur modèle, dans leurs produits ou services qui les amène à avoir un potentiel de croissance. Donc le premier critère qu'on regarde, c'est est-ce que finalement la startup contribue à atteindre son potentiel de croissance. Pour ça, l'idée c'est évidemment de regarder la croissance du chiffre d'affaires, mais ça c'est quelque chose d'assez classique. Et on propose dans le rapport d'aller au-delà en regardant la croissance des emplois créés et également la croissance du chiffre d'affaires à l'international, dans l'idée que la startup a la vocation à s'étendre, elle a un modèle qui doit passer à l'échelle. Et finalement, ce premier critère permet de comprendre si la startup est capable de passer à l'échelle. Le deuxième critère qu'on regarde, c'est dans quelle mesure la startup est capable de se financer, d'aller chercher ses financements. La plupart du temps, ces critères-là utilisent les levées de fonds pour mettre en avant les startups. Ce qu'on a mis en avant dans le rapport, c'est que ça limite les startups qui sont sélectionnées. Et typiquement, quand on regarde le Next40, une startup qui ne lève pas de fonds ne peut pas être dans le Next40. Donc, on a voulu aller au-delà et intégrer également des critères d'autofinancement pour mettre en avant les startups qui réussissent sans pour autant lever des fonds. Le troisième critère qu'on a voulu regarder, c'est un critère de rentabilité. Alors évidemment, les startups, elles sont sur des modèles qui sont souvent innovants. Elles vont potentiellement devoir pivoter une fois, plusieurs fois. Mais malgré tout, ça reste des entreprises et donc elles ont besoin tôt ou tard d'être rentables. Donc les perspectives de rentabilité à minima, à quel horizon la startup pense être rentable, c'est un des critères qui est hyper important de regarder. Évidemment, si elle est déjà rentable, on peut aussi regarder le niveau de rentabilité de son entreprise. Donc en synthèse, on a évoqué trois critères pour mesurer l'impact économique des startups: la croissance, le financement et la rentabilité. Donc sur cette base-là, je serais curieux, Cyril, de comprendre est-ce que ça fait écho à ce que tu peux voir chez Google et comment Google accompagne les startups sur ce sujet précis de l'impact économique.
Merci Yacine. Moi j'aime beaucoup cette vision effectivement de l'impact économique. Si je devais retenir un élément effectivement auquel on est particulièrement sensible chez Google, c'est la dimension de croissance. Pour revenir à ce que tu évoquais sur l'impact économique, effectivement c'est un critère nécessaire, mais c'est un critère qui n'est pas suffisant. Et si je devais donc en retenir un en particulier ici, ça serait la croissance. Et d'ailleurs chez Google, on accompagne les entreprises et plus particulièrement les startups sur la base de leur croissance et non pas sur la base de leur levée de fonds. On a mis en place il y a quelques années maintenant un programme qui est un programme qui se divise en trois phases: une phase start, une phase grow et une phase scale. Et ces phases qui ont pour chacune d'entre elles un contenu spécifique et qui vont s'adresser à des entreprises et des startups spécifiques, ça va être uniquement lié à la croissance de ces entreprises et non pas à leur levée de fonds. Et donc ça, pour moi, quelque chose qui est assez structurant, c'est qu'effectivement, les programmes chez Google aujourd'hui, le sujet principal, ce qu'on va regarder et ce qu'on va mesurer, c'est à la fois la capacité qu'ont les entreprises à croître et nous, notre capacité à avoir un impact sur cette croissance.
Comment Selextra se positionne sur ce sujet? Quels sont par exemple les critères ou les KPIs que vous avez identifiés?
Nous sommes tout à fait d'accord avec le fait que la levée de fonds n'est pas forcément un critère de réussite pour une start-up, puisque ne pas faire de levée de fonds, c'est rester complètement indépendant dans ses actions, et c'est tout à fait la philosophie chez Selextra, c'est pourquoi on n'a jamais voulu faire de levée de fonds chez Selextra. Donc pour nous, le vrai critère de réussite, on vous rejoint, c'est la croissance d'une entreprise. Et nous, chez Selextra, cela fait plusieurs années que l'on a une croissance à deux chiffres, et cela reste un objectif pour les années à venir, puisque c'est là que se crée la valeur, et aussi notamment que se crée l'emploi. Et je pense que la création d'emplois est aussi un KPI important. Autre chose, je pense, qui pourrait être regardé, c'est le non-recours l'an dernier aux prêts garantis par l'État. Chez Selectra, on n'en a pas eu, malgré la situation qui aurait pu être difficile. Et je pense que c'est un critère qui montre la solidité de notre système économique. Et je pense que c'est un point qu'on pourrait aussi regarder.
Et finalement, comment sensibiliser l'écosystème à ces problématiques et plus largement à la vision holistique du succès que propose le rapport?
En fait, je pense qu'il faut plus souvent laisser la parole à des entreprises comme Selectra, qui effectivement ont su développer des modèles d'affaires hyper ambitieux. On parle d'une croissance à deux chiffres, alors qu'il n'y a pas eu de levée de fonds. Ça, pour moi, c'est le premier levier. Et puis le deuxième, il faut que tout le monde écoute ce podcast, parce que finalement, à travers ce podcast, c'est des exemples d'entreprises qui ont su développer des modèles d'affaires sans passer nécessairement par la case levée de fonds et qui sont mis en avant.
Alors, je dirais aussi que plutôt que toujours attirer l'attention sur les grosses levées de fonds qui sont montrées comme des succès et qui en sont aussi, c'est une façon de montrer qu'il y a des entreprises qui arrivent à avoir la confiance des fonds d'investissement. Je pense qu'effectivement, diversifier les exemples qui sont mis en avant, montrer qu'il existe des modèles alternatifs et qui sont tout à fait vertueux, c'est aussi une bonne façon de sensibiliser l'écosystème.
Merci à Cyril Saint-Olive, Claire-Estelle Gourina et Yacine Stocky pour ce décryptage. Inscrivez-vous au podcast pour découvrir chaque point cardinal plus en détail.